Donc, avant de commencer, je suis très heureux d'être ici, à Marseille. Je suis arrivé hier soir et je tiens à remercier vivement Didier Pachaud de m'avoir invité à intervenir dans ce colloque. Donc, comme vous l'avez compris, nous allons parler de créationnisme, qui est un sujet qui a déjà été abordé dans la conférence introductive que Didier a faite. Et je vais commencer par me présenter. Bon, je suis biologiste de formation. J'ai effectué une thèse au Muséum national d'histoire naturelle sur les organismes marins en systématique et évolution. Alors, systématique, c'est la science qui étudie les relations entre les organismes et qui permet de les classer et de les resituer dans le périmètre évolutif. Et je ne suis pas chercheur de profession. Voilà, je tiens à le préciser. Je travaille aujourd'hui en communication scientifique, en diffusion de la culture scientifique. Plus particulièrement sur la biodiversité. Je ne mentionne pas mon employeur parce qu'il est totalement indépendant des travaux que je réalise sur la problématique des créationnismes depuis un certain nombre d'années. Pour être précis, on a commencé à y travailler avec Cyril Baudouin en 2006. Donc ça fait déjà un petit moment. Nous sommes les auteurs de deux ouvrages, dont le dernier en date, paru chez Belin, que Didier a évoqué. Enquête sur les créationnismes, et donc effectivement, comme il m'en avait parlé, j'ai ramené quelques exemplaires si ça intéressait des personnes ici présentes. L'ouvrage donc en question, c'est un ouvrage qui est en premier lieu une enquête de type journalistique, et c'est aussi un livre qui parle de science et de démarche scientifique. Alors on y a travaillé avec la volonté de le rendre accessible à tous ceux qui s'intéressent aux questions de société, quelles que soient leur connaissances en science. Et nous l'avons aussi construit de manière à en faire un recueil d'informations sur les créationnismes, donc avec un découpage important et des glossaires et qui permettent d'accéder à des informations aisément. Alors, c'était pour le petit préambule sur l'ouvrage. Et si c'est suffisamment agréable au niveau du son, eh bien je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors le mot créationnisme, il est apparu à la fin du 19e siècle pour désigner des mouvements anti-évolutionnistes qui sont nés dans des églises évangéliques du sud des États-Unis. Ces oppositions, elles se sont développées parallèlement à l'acceptation de plus en plus large au sein de la communauté scientifique de la théorie de l'évolution des espèces proposée en 1859 par le naturaliste Charles Darwin et à sa diffusion dans la société. Je reviendrai un petit peu après justement sur la théorie de l'évolution, très brièvement, mais c'est important parce qu'en particulier pour faire ressortir les implications de sa théorie qui sont justement les points de réaction et d'opposition qu'on va retrouver dans les mouvements créationnistes. Donc, dans un sens premier, les créationnistes sont ceux qui affirment que le récit de la création, tel qu'il apparaît par exemple dans la Genèse, doit être accepté à la lettre. Et ces partisans considèrent la théorie de l'évolution comme une remise en cause de leurs croyances et de leur conception du monde. Donc là, on parle bien de l'approche, la définition créationniste, du créationnisme le plus strict, qui a déjà été évoqué par Didier Pachaud en introduction. Alors, pour être un peu plus concret que ce préambule, depuis plusieurs années, divers médias présentent le Creation Museum, ou le Musée de la Création, situé aux États-Unis, à Petersburg, dans le Kentucky, et qui a vu le jour en 2007. Ce musée a coûté 27 millions de dollars et a accueilli plus de 2 millions de visiteurs depuis son ouverture. C'est un musée dirigé, enfin fondé et dirigé par une puissante structure créationniste américaine qui s'appelle Answers in Genesis, les réponses dans la Genèse. Dans le prolongement, dans ce musée, pour le dire, c'est un musée qui présente les origines de l'univers, de la vie et de l'humanité, conformément à une lecture littérale du livre de la Genèse, et la théorie de l'évolution y est totalement rejetée. Dans le prolongement, un parc d'attractions nommé l'Arche de Noé a été inauguré en juillet 2016. Donc, c'est un Arche de Noé grandeur nature. Je ne me rappelle plus de la taille qui était indiquée tout à l'heure sur la diapo, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Alors, c'est un nouveau projet qui a coûté environ 90 millions de dollars. Argent obtenu avec des mécènes, bien sûr, et aussi avec un financement public, puisqu'il y a eu pendant plusieurs années un appel à contribution où chacun pouvait demander à acheter, à payer soit une planche, soit un clou, soit voilà, pour la construction de l'ensemble de cette arche. Alors, On va retraverser l'Atlantique, parce que là, je vous parle des États-Unis depuis tout à l'heure, mais on va se dire, si on est aux États-Unis, que se passe-t-il en France ? Là, ça nous concerne beaucoup plus directement Marseille et, on va dire, le sud de la France, puisque début octobre 2017, de nombreux médias se sont fait l'écho de la diffusion en grand nombre dans plusieurs villes du sud de la France. Et en particulier, il y avait dans les villes citées, il y avait Saint-Tropez, Toulon, Marseille et d'autres, devant des écoles et directement dans des boîtes aux lettres, d'un livre intitulé « Comment les fossiles ont renversé l'évolution, des centaines de millions de preuves réfutent le darwinisme ». Alors, le livre en question, j'en parlerai un peu plus loin, je le montrerai. J'en ai un exemplaire ici. Certains d'entre vous l'ont peut-être reçu. Oui, je vais demain, au moins une main se lever. Demain, donc il y a des gens, donc vous pourrez également le feuilleter. Donc, le contenu qui se veut scientifique dénonce l'imposture du darwinisme et compare page après page des empreintes de fossiles avec des photographies d'espèces actuelles ressemblantes. Je vous montrerai quelques images tout à l'heure. À la différence des créationnistes américains que je viens d'évoquer, et qui ont fait sourire un petit peu, eh bien, ces créationnistes musulmans acceptent l'ancienneté de la Terre. Ils ne sont pas dans une vision Terre jeune d'entre 8 et 10 000 ans, ou on va dire 7 000 ans. Là, ils acceptent l'ancienneté de la Terre. Donc, tout l'objet, c'est de montrer des photos de fossiles en donnant la datation et de montrer une espèce actuelle et de faire cette comparaison. Et c'est la répétition de cette comparaison qui se veut l'argument majeur en faveur de la création et à l'encontre de la théorie darwinienne de l'évolution. Donc on est face à un créationnisme qui se prétend scientifique. Donc vous allez, on va retrouver cette notion de créationnisme scientifique, mais c'est dit scientifique, c'est les créationnistes eux-mêmes qui se prétendent comme ayant une position qui relève de la science et qui est de type terre ancienne, au contraire de créationnistes américains évoqués juste auparavant avec le musée de la création, qui sont des créationnismes terre jeune. Alors, avant de basculer sur la diapo suivante, Haroun Yahya, qui est l'auteur de ce livre, enfin, Haroun Yahya, ou plutôt son organisation, parce que c'est systématique, tous les livres qui sont produits par son organisation sont signés de son nom, mais c'est assurément pas lui qui les écrit. Mais toujours est-il que Haroun Yahya s'est fait connaître en France dès 2007 avec l'envoi d'un volumineux Atlas de la création. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous ? Alors là, c'était vraiment un gros volume de 800 pages et plus de 6 kilos. D'ailleurs, il y a plusieurs tomes qui existent. Chez moi, j'en ai deux tomes, parce qu'il y a un deuxième tome qui avait été envoyé en moins grand nombre l'année suivante. Et je ne sais plus à combien ils en sont au moins au 6e ou 7e. Et en fait, on peut considérer que l'ouvrage qui a été diffusé, enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse, cet ouvrage-là, c'est une espèce de digeste de la place de la création, parce qu'on a exactement le même type de construction. Et donc, ils ont fait une sélection de leurs, entre guillemets, meilleures pages. Donc, il y a ces comparaisons de fossiles, et il y a aussi des chapitres sur lesquels je reviendrai, qui dénoncent, souvent très violemment, la théorie darwinienne de l'évolution. À l'époque, en 2007, ce fut la découverte de l'existence d'un créationnisme musulman prosélyte, ce qui avait amené donc un certain nombre de médias à s'emparer de la question et en parler, et Haroun Yahya revient régulièrement dans les dossiers ou les sujets qui traitent de créationnisme depuis lors. Alors, notre livre contribue en fait à déconstruire des idées reçues qui sont encore très répandues dans les médias et dans l'opinion publique à propos du créationnisme. Sans chercher à être exhaustif, en voici quelques-unes de ces idées reçues. D'abord, les créationnistes sont nécessairement anti-évolutionnistes. En fait, ce n'est pas le cas. Alors, je vais y revenir très rapidement, parce que là, on a parlé uniquement, là, je vous ai présenté, on a abordé le créationnisme par les mouvements qui sont fondamentalement anti-évolutionnistes. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on a une nébuleuse, une galaxie de mouvements créationnistes qui vont jusqu'à des positions qui intègrent la théorie d'évolution. Les créationnismes ne concernent que les églises protestantes évangéliques aux États-Unis, alors ça, c'est terminé depuis longtemps, et le créationnisme s'est mondialisé depuis déjà plusieurs décennies et également très présent en Europe, comme je vais y revenir. Donc, d'où l'idée suivante qui est l'Europe est à l'abri des créationnismes, c'est faux. Et les créationnismes ne concernent que la biologie, l'unique cible étant la théorie darwinienne de l'évolution. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et j'y reviendrai avec une illustration autour de la physique et en particulier de la cosmologie. Au travers d'une structure que je vais évoquer, une structure française que je vais évoquer plus loin. Donc, Alors, à l'époque de Darwin, l'idée de transformation des organismes au cours du temps n'est pas nouvelle en soi. C'est la pensée dominante à l'heure est encore le fixisme, l'idée selon laquelle les espèces sont fixes et immuables, telles que le créateur les a définies. Mais d'autres intellectuels ont proposé, avant Darwin, des théories dites transformistes. On parle de transformisme. À cette époque-là, le mot évolutionnisme n'est pas encore utilisé. Alors c'est le cas, pour citer un exemple, personne que vous connaissez au moins de nom, c'est le biologiste français Jean-Baptiste Delamarck, qui a proposé une théorie transformiste en 1809, qui est d'ailleurs l'année de naissance de Charles Darwin. C'est un exemple. Cela dit, en 1859, dans l'origine des espèces, donc là vous avez quelques dates pour resituer Darwin, sa naissance, son décès, et son voyage fondateur à bord du Beagle et deux ouvrages majeurs, l'un traitant de l'origine des espèces en ayant fait volontairement abstraction de l'homme, et l'ouvrage de 1871, sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui lui concerne l'homme en particulier et qui donc prolonge tout ce qu'il avait développé dans l'origine des espèces, mais en l'appliquant à l'homme. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en 1859, dans l'origine des espèces, Darwin propose une théorie véritablement novatrice. Et il pose les fondements du paradigme évolutionniste qui prévaut toujours en biologie dans l'actuelle théorie darwinienne de l'évolution. Et sa théorie, elle repose largement sur le tandem variation-sélection naturelle, sur lequel je vais revenir très rapidement. Alors, ce tandem, il s'articule sur quoi ? Tout d'abord sur la notion de variation qui est issue de l'observation. Prenons un exemple, si vous avez regardé une portée de chat, tous les individus de cette portée de chat sont différents. Ils ont des caractéristiques morphologiques, anatomiques, physiologiques qui permettent de les distinguer les uns des autres. Donc ça, c'est un constat, une observation, dont les espèces, elles ont une capacité naturelle à varier. C'est ce que Darwin va appeler la variabilité. Darwin associe à cela l'héritabilité. Et l'héritabilité, c'est le fait que les variations peuvent être transmises de génération en génération. Autre observation qu'il a pu faire au cours de ses travaux. Et une fois cette variabilité, cette héritabilité identifiée, il explique qu'une sélection s'opère sur les variations affectant les organismes. Autrement dit, certains individus survivent ou se reproduisent mieux que d'autres parce qu'ils ont des caractéristiques avantageuses dans un environnement donné. Et la notion « dans un environnement donné » est fondamentale. Si l'environnement change au cours du temps, d'autres caractéristiques qui sont plus rares mais qui sont déjà présentes chez certains individus d'une population, eh bien, pourront conférer un avantage pour la survie ou la reproduction, et au fil des générations, eh bien, ces caractéristiques pourront se répandre dans la population. Et c'est par ce mécanisme-là qu'on peut comprendre aujourd'hui les modifications qu'on observe au sein d'une même espèce et le passage d'une espèce à une autre, en tout cas les modifications qui permettent de comprendre la spéciation, la diversification des espèces pour appréhender, par exemple, la diversité actuelle qu'on constate sur la planète. Alors, je voudrais préciser ici que la notion de sélection naturelle, elle ne se limite pas à une compétition entre individus sur la base de différences biologiques, parce que c'est souvent des choses qu'on peut lire. La coopération, l'entraide, l'altruisme sont aussi nécessaires pour expliquer le succès reproductif d'un individu. C'est des choses sur lesquelles Darwin avait beaucoup travaillé. Donc, ce qui résume, c'est des choses qu'on lit souvent malheureusement, et on peut retrouver, je pense souvent d'ailleurs dans des magazines économiques qui parlent de Darwin et de darwinisme, pour en fait mettre en avant la loi du plus fort ou la lutte pour la vie. Alors, c'est une utilisation totalement abusive. Moi je pense qu'on est ça relève de l'imposture intellectuelle, puisqu'en plus on est en train d'extraire des notions qui relèvent de la biologie pour les utiliser en économie. Et si vous faites des recherches économie Darwin, vous allez tomber très très rapidement sur des articles qui font ces amalgames-là. Et donc ils parlent de loi du plus fort ou de lutte pour la vie. Donc c'est bien une caricature, intentionnelle ou non, des idées proposées par Darwin. Alors en définitive, bien sûr, en présentant ce tandem variation-sélection naturelle, je suis loin d'épuiser tout ce que Darwin a développé il a écrit à peu près 30 livres au cours de sa vie. Le dernier de ses livres, d'ailleurs, parlant des vers de terre, étant un livre considéré comme un livre fondateur dans le domaine de l'écologie. Donc en définitive, Darwin il montre que l'ordre apparent de la nature, recherché dans la classification du vivant, depuis déjà, par ses prédécesseurs, correspond en fait à l'histoire évolutive des organismes et à leur origine commune. Et ça, c'est une véritable innovation, quelque chose qui fait une rupture par rapport à ses prédécesseurs, même par rapport à des personnes comme le chevalier Jean-Baptiste Delamarque, qui avait proposé avant lui une théorie transformiste. Alors, quelles sont les implications qui en découlent? Donc, la théorie formulée par Darwin constitue sur plusieurs points une rupture par rapport à ses prédécesseurs. Tout d'abord, le premier point, c'est que les valeurs morales ou les entités immatérielles qui sont jusque-là associées à l'explication du monde vivant sont définitivement exclues du cadre théorique, de ce nouveau cadre théorique, parce qu'elles sont considérées comme injustifiées, superflues et non testables empiriquement. Et ça, c'est la notion de matérialisme méthodologique. Donc c'est un matérialisme de méthode, c'est un des piliers de la démarche scientifique moderne. C'est un matérialisme qui n'est pas à confondre avec un matérialisme vulgaire ou idéologique, et pourtant c'est ce que font les mouvements dont on va parler au cours de cette intervention. Donc, premier volet. Deuxième point, ils rompent avec des positions finalistes qui conçoivent l'évolution comme ayant une direction déterminée à l'avance, ou dit autrement, selon laquelle l'évolution tendrait vers un but ultime. Ça, c'est une autre rupture. Troisième point qui est lié à cette rupture avec le finalisme, il évite un biais de raisonnement anthropocentrique qui place l'homme comme aboutissement de l'évolution. C'est quelque chose qu'on retrouve encore fréquemment dans la présentation actuelle où, d'une manière ou d'une autre, quand il y a un schéma ou une illustration pour parler d'évolution, on va trouver l'homme positionné en haut du schéma ou au bout d'une chaîne. Enfin, donc c'est encore des choses qui sont très très présentes. Darwin, justement, avait évité tous ces biais-là et n'a fait aucune représentation dans laquelle il plaçait l'homme comme étant l'aboutissement de l'évolution. Une autre notion qui est aussi liée aux deux précédentes, c'est qu'il abandonne l'échelle des êtres qui consiste à voir l'évolution comme une succession linéaire d'organismes allant de la bactérie à l'homme dans le sens d'une complexité croissante. Alors quand je dis ça, ça fait écho à une des diapos de l'intervention de Didier. C'est la dernière, je crois, ou l'avant-dernière, où il y avait une représentation humoristique où on voyait justement...
La théorie de l'involution.
De l'involution, voilà, théorie de l'involution. Donc là, on est dans cette notion d'échelle des êtres. Et si vous faites le test, vous l'avez peut-être déjà fait, si vous tapez « évolution » sur un moteur de recherche et que vous regardez les réponses en images, vous allez tomber majoritairement sur des représentations où on voit un singe qui se redresse petit à petit jusqu'à donner un homme, ou si c'est une représentation qui veut aller beaucoup plus loin, on va avoir une petite bactérie dans l'eau qui petit à petit va se transformer en un autre organisme et un poisson avant la sortie des eaux, une espèce de batracien, et etc., jusqu'à l'aboutissement qui est l'homme. C'est la représentation qu'on trouve le plus fréquemment. Et qu'on retrouve d'ailleurs assez fréquemment, y compris dans des journaux de vulgarisation scientifique, ou même des couvertures d'ouvrages, qui savent très bien que ce n'est pas la bonne manière de présenter l'évolution, mais comme c'est la chose qui est la plus facilement appréhendée par le public, ils continuent d'utiliser ce type d'image. Et en disant ça, je pense à des dossiers ou des hors-séries dans des revues comme La Recherche ou Science et Avenir, etc. Voilà. Et le cinquième point et dernier point sur ces implications que je voulais évoquer, c'est le fait que Darwin fait intervenir le hasard. Alors, le hasard va être un point aussi de réaction très fort du mouvement créationniste. Il fait intervenir le hasard sous différentes formes et à différentes étapes des processus évolutifs. Au contraire de ce qu'affirment de nombreux détracteurs du darwinisme, le hasard n'est pas le moteur de l'évolution. C'est pas le moteur. L'évolution dépend d'un ensemble de processus, dont la sélection naturelle que j'ai présentée, dans lequel le hasard intervient sous différentes formes et à différentes étapes. Donc le hasard, c'est plutôt le carburant de l'évolution. Si on prend la variabilité ou la variation dont on a parlé tout à l'heure, elle s'explique aujourd'hui on est capable de l'expliquer par la génétique. À l'époque de Darwin, il avait dans sa bibliothèque les écrits de Mendel, mais ils ont été redécouverts beaucoup plus tard. Et donc, la variabilité au niveau génétique et la manière dont les animaux se reproduisent fait intervenir la notion de hasard. Après, il y a le hasard au sens de contingence aussi. Le fait que la contingence, c'est par exemple l'idée, on sait que les dinosaures ont disparu, entre autres, c'est pas la seule raison, parce qu'une météorite a percuté la Terre. si cette météorite n'avait pas percuté la Terre, on peut considérer que la Terre ne serait pas la même aujourd'hui, au moins ne porterait pas les mêmes espèces. Donc ça, c'est la notion de hasard au sens de contingence. Tout ça pour conclure sur cette partie un petit peu biologie avant de revenir sur les mouvements en question. Il faut bien retenir que la théorie de l'évolution est une théorie scientifique qui est extrêmement dynamique, qui est riche de la diversité de ses disciplines, qui ne cesse de se développer et de se modifier, tout en gardant le même noyau théorique de base qui est celui proposé par Darwin il y a plus de 150 ans. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, on se réfère à une personne comme Darwin. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres disciplines scientifiques où, effectivement, ceux qui sont les précurseurs ne sont pas forcément encore cités aussi fréquemment. Alors, je vais parler par la suite de théorie darwinienne de l'évolution, puisque nous allons le voir très rapidement, on peut être évolutionniste et non darwinien, ou encore évolutionniste et créationniste. Alors, on va repasser de l'autre côté de l'Atlantique. On traverse, on retourne aux États-Unis pour juste parler brièvement de l'histoire du créationnisme aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est le foyer initial des mouvements créationnistes, et donc ce foyer initial constitue un modèle pour comprendre leur cheminement, leurs évolutions, dans un contexte d'opposition idéologique aux transformations profondes de la société. Pendant le XXe siècle, les discours créationnistes vont subir des reformulations, des adaptations, des sophistications au sein de trois mouvements majeurs qui sont motivés par les mêmes objectifs politiques. Et l'élaboration de ce discours, de discours créationniste de plus en plus sophistiqué, correspond d'une part à une adaptation à des avancées de la science qui ne pouvaient plus être ignorées ou rejetées, et d'autre part aux conséquences des affrontements juridiques qui se succèdent outre-Atlantique depuis 1925. Je ne vais pas y revenir là pour ne pas passer trop de temps là-dessus, mais le système américain est décentralisé, et donc ce qui amène à des procès qui se passent état par état avant que la Cour suprême intervienne en général pour clore toute une phase de ce qu'ils appellent le terme croisade, c'est un terme employé par les créationnistes eux-mêmes, donc dans ces différentes croisades qui sont identifiées aux États-Unis. Alors, quelles sont-elles ? On a tout d'abord le créationnisme littéraliste de la première moitié du XXe siècle, qui est marqué par le célèbre procès du singe en 1925, dans le Tennessee. Ce créationnisme-là, il veut interdire l'enseignement de l'évolution. C'est un créationnisme anti-évolutionnisme qui vise à interdire totalement l'enseignement de l'évolution. Dans les années 70-80, ce créationnisme littéraliste devient un créationnisme dit scientifique. Et là, je dis bien dit scientifique et je le dis bien scientifique, en se parant d'un costume scientifique pour imposer une conception religieuse dans l'enseignement des sciences. Leur idée, ou du moins ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'il faudrait enseigner une prétendue science de la création. Donc il y a une évolution qui est majeure, puisque la science n'est plus seulement une cible, c'est plus la cible des mouvements précédents. Ça devient un instrument pour légitimer objectivement la vision du monde de ces créationnistes. Au début des années 90, alors il faut peut-être préciser, mettre en parallèle, donc la croisade de la science de la création va prendre toute son ampleur dans les années 80, alors entre 81 et 87, et 80, ça correspond à l'élection de Ronald Reagan à la tête des États-Unis, puisqu'il a apporté un soutien officiel et direct à l'enseignement de la science de la création. Donc, je veux dire, il y a toujours des éléments de politique et pour comprendre la manière dont ces mouvements ont évolué et se sont développés. Donc, au début des années 90, le mouvement du dessin intelligent, qu'on appelle aussi, on dit intelligent design, donc dessin, c'est EIL, c'est ce mouvement du dessin intelligent émerge. Ce dernier accepte de larges pans du corpus scientifique contemporain, notamment l'idée d'évolution. Donc là, on bascule dans un créationnisme qu'on va qualifier d'évolutionniste. Donc les partisans du dessin intelligent acceptent l'idée d'évolution, mais ils refusent des processus qui sont proposés par la biologie contemporaine dans l'actuelle théorie darwinienne de l'évolution, notamment la sélection naturelle, également la notion de hasard, et le matérialisme méthodologique qui est rejeté violemment. Donc ce créationnisme évolutionniste témoigne du fait, comme je l'ai déjà dit, que le créationnisme et l'évolutionnisme ne se posent pas nécessairement. La démarche scientifique est alors instrumentalisée pour imposer dans l'enseignement des sciences l'idée d'une évolution guidée par une intelligence supérieure, c'est cette idée de dessin intelligent, indéfinie et transcendante. Ils évitent d'utiliser d'ailleurs du vocabulaire religieux parce que du fait des précédentes croisades qui ont été perdues justement parce que les juges ont mis en avant le fait que c'était la mise en avant d'éléments religieux dans les cours de sciences et que c'était en contradiction avec le premier amendement de la Constitution américaine. Donc ils veulent contourner ces défaites juridiques passées en évitant d'utiliser un vocabulaire qui est trop explicite. Donc ils vont parler de grands architectes, de grands designers, de grands concepteurs et essayer d'expurger le vocabulaire qui serait trop religieux. Et l'objectif de ce mouvement, comme de ses prédécesseurs, est d'imprégner toute la société de cette idée grâce à une légitimité scientifique usurpée. Donc on a des structures comme le Discovery Institute, l'Institut pour la découverte, qui font partie des fers de lance de ce mouvement-là, qui vont proposer, former, enfin, recruter des scientifiques pour qu'ils écrivent dans des revues qui vont être créées, dans lesquelles ils vont pouvoir développer les thèses du dessin intelligent, etc. Donc le but, c'est vraiment de mimer la science dans le prolongement de ce qu'avaient fait les prédécesseurs, les créationnismes scientifiques dont j'ai déjà parlé. Alors aujourd'hui, je vois juste sur la diapo, je vais reparler après du spiritualisme englobant avec une structure française en particulier, donc c'est pour ça que là je ne l'évoque pas. Ce qui s'est passé en fait depuis les années 90, donc le mouvement du dessin intelligent, il a vraiment émergé au début des années 90, et ils ont perdu un important procès en 2005 à Dover, et à partir de cette défaite juridique, ils ont encore modifié leur approche. C'est pour ça que j'évoque la notion de post-dessin intelligent, donc où ils essaient de renverser un peu les choses en disant qu'il est important que les élèves aient affaire à toutes les opinions et que de leur donner qu'une seule opinion, c'est justement aller à l'encontre de la liberté d'éducation, et etc. Donc ils ont modifié leur discours et il y a également les approches encore plus sophistiquées de type spiritualisme englobant, sur lequel je vais revenir et je pense que ce sera plus clair tout à l'heure. Alors, toutes ces formes de créationnisme aujourd'hui, c'est là que je vous ai parlé d'une succession chronologique, donc on peut avoir l'impression que chacun des mouvements a remplacé l'autre et qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère du dessin intelligent, il n'y a plus que des partisans du dessin intelligent. Ce n'est pas le cas du tout. Tous les mouvements sont aujourd'hui représentés, plus particulièrement le créationnisme dit scientifique et les approches de type dessin intelligent. Et c'est ce qu'on retrouve aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde et en Europe, comme je vais l'évoquer juste après. Alors maintenant que j'ai évoqué brièvement la diversité des créationnismes au travers de l'histoire américaine, je vous propose quand même d'identifier un socle commun aux différentes formes de créationnisme. Parce que je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous se disent qu'entre les créationnistes littéralistes du début du XXe siècle et puis les intelligents designers ou les post-intelligents designers qui acceptent l'idée d'évolution, il y a quand même une différence qui peut paraître un peu incommensurable. Et on peut se dire, mais alors pour quelle raison est-ce que on serait amené à appeler tous ces gens-là et les nommer créationnistes? C'est d'autant plus nécessaire que les créationnistes les plus sophistiqués de type spiritualiste, anglais, ou même dessin intelligent, présentent leur doctrine comme scientifiquement légitime et affirment, pour mieux imposer leur propre position, que seuls ceux qui croient aux espèces fixes et immuables devraient être qualifiés de créationnistes. C'est des choses que vous allez retrouver si vous lisez des écrits qu'il y en a, ils vont dire, ah, mais non, ceux qui nous présentent comme créationnistes se trompent, les créationnistes, c'est seulement ceux qui adhèrent à un créationnisme littéraliste ou scientifique qui nie la théorie de l'évolution. Alors je vous propose une caractérisation, alors c'est pas une définition en une phrase, ça aurait été l'idéal parce que c'est la meilleure manière de manière plus simple de le présenter, mais c'est une caractérisation en plusieurs points pour essayer de justement bien intégrer les spécificités de ces mouvements. Alors le premier volet de cette caractérisation, c'est que toute tentative d'explication du monde naturel visant à prouver de manière active qu'une force surnaturelle et décisionnelle élabore le monde est un créationnisme. Mais ça ne suffit pas, parce que là, on est encore dans le registre de croyances qui peuvent s'adresser de beaucoup de personnes, mais qui n'impliquent pas forcément une volonté active ou une action vis-à-vis de la société, de l'enseignement, avec la volonté d'imposer une vision du monde. Donc justement, le deuxième volet, c'est que les doctrines créationnistes reposent sur quatre présupposés. Alors ça, c'est important d'avoir en tête, parce qu'on va retrouver des présupposés qui sont ceux avec lesquels Darwin avait rompu, et donc ça permet de mieux comprendre pourquoi le darwinisme ou la théorie Darwin de l'évolution est un sujet sur lequel tant de personnes, encore aujourd'hui, restent arc-boutées en opposant, violent. Donc les quatre présupposés qui supportent une conception du monde et un projet de société, C'est tout d'abord le fait que le monde a été conçu par une intelligence surnaturelle, visionnaire. Donc pour les religions monothéistes, il s'agit de Dieu. La deuxième idée, c'est que l'esprit l'esprit est une réalité distincte de la matière. Donc c'est ce qu'on appelle le spiritualisme. On retrouve également l'anthropocentrisme qui pose l'homme au centre de l'univers et le finalisme. Donc, puis je rappelle, est l'idée sur laquelle tout processus historique lié au monde physique ou au monde vivant est nécessairement dirigé ou à une direction prédéterminée. Bon, ça, ce sont des présupposés qu'on va retrouver chez tous les créationnistes, quelles que soient les positions qu'ils défendent. Et le dernier volet de cette caractérisation, c'est le volet plus politique. C'est que pour les créationnistes, ces présupposés supportent une conception du monde et un projet de société. Tous les champs de la connaissance ainsi que la construction politique de la société y sont englobés, et ce qui porte atteinte à la laïcité, au moins la laïcité à la française. Et ces créationnismes se caractérisent par deux types d'actions ayant un impact sur la société dans son ensemble. Tout d'abord, lorsqu'ils ne rejettent pas simplement les résultats scientifiques en contradiction avec leurs croyances, comme les créationnismes littéralistes par exemple, les doctrines créationnistes redéfinissent ou tentent de redéfinir la démarche scientifique pour légitimer objectivement leur vision du monde. Et deuxième point, c'est que l'enseignement, et plus particulièrement l'enseignement des sciences, constitue une cible privilégiée dans le but d'imposer durablement leur conception à l'ensemble de la société. C'est particulièrement visible aux États-Unis avec les différentes croisades que j'ai rapidement évoquées, mais c'est ce qu'on va retrouver partout, et on va le voir juste après avec ce qui s'est passé en Europe et un certain nombre de ministres de l'Éducation. Alors, en Europe, depuis 2004, en fait, les remises en cause de l'enseignement de la théorie d'évolution par plusieurs dirigeants politiques européens ont fait prendre la mesure de la mondialisation des créationnismes. En octobre 2016, dans un article intitulé « Le créationnisme envahit l'Europe », je vous ai juste mis d'ailleurs les premières lignes, enfin, le chapeau, le titre et le chapeau de cet article, qui est paru dans la revue Scientifique America, deux chercheurs européens rappelaient le constat que nous faisons dans nos travaux et en appelaient à une mobilisation des chercheurs pour investir le champ de la communication scientifique face à des mouvements créationnistes particulièrement actifs dans des médias qui sont parfois complaisants. Alors, pour revenir plus précisément à ce dont il est question, enfin du moins l'illustrer un petit peu, je ne pourrais pas détailler tout ce qu'on a analysé dans notre ouvrage, mais je vais revenir sur une prise de position politique qui concerne l'Italie. Il y a eu d'autres pays concernés, alors ça date il y a quelques années, mais c'est particulièrement révélateur du niveau auquel on est arrivé sur des prises de position créationnistes. Je vais prendre l'exemple de l'Italie parce que donc c'est en 2004, la ministre de l'Éducation du gouvernement de Berlusconi, c'était donc Letizia Moratti, qui a signé un décret visant à exclure l'enseignement de l'évolution dans le secondaire. Les notions d'évolution de la Terre ou bien d'origine et d'évolution biologique et culturelle de l'espèce humaine sont supprimées. Donc je disais que les notions d'évolution de la Terre ou bien d'origine et d'évolution biologique et culturelle de l'espèce humaine sont supprimées des programmes. Alors c'est un décret qui a été en vigueur, et il y a eu des réactions vives de scientifiques et d'universitaires qui ont permis l'annulation de ce décret l'année suivante, en 2005. Donc on va dire, le décret a été annulé, finalement tout se termine bien, sauf que depuis lors, et encore dans des articles relativement récents que j'ai pu lire, des articles italiens, dans des journaux italiens, ce décret a laissé des traces concernant la manière dont la théorie de l'évolution est enseignée en Italie, sous la forme en fait d'une autocensure de beaucoup d'enseignants qui évitent de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on est sur des choses qui laissent des traces pendant longtemps dans la manière dont l'enseignement se passe dans les établissements scolaires. Dans cette position est celle d'autres ministres de l'éducation contre la théorie de l'évolution ou bien en faveur du dessin intelligent. En faveur du dessin intelligent, par exemple, parce que vous l'avez sur la diapo qui est ici et je ne vais pas en parler, mais la ministre hollandaise de l'éducation, Maria van den Hoven, elle a défendu l'enseignement du dessin intelligent à côté de la théorie darwinienne de l'évolution dans les cours de sciences. Il y a eu tout un débat interne dans le pays avec les acteurs, avec les partis politiques, les médias s'en sont emparés, etc. Ça a été quelque chose de très très vif. Donc on a des positions différentes de ministres de l'éducation qui vont de suppression d'enseignement de l'évolution ou de certains enseignements évolutionnistes ou enseignement de théories dites alternatives. Donc c'est l'aboutissement, en fait, ce qu'on constate là, dans cette partie émergée de l'iceberg, c'est l'aboutissement de lobbying de structures organisées qui créent des musées, qui publient des ouvrages, qui organisent des conférences. Donc cette position, celle dont je viens de parler, celle de la ministre italienne de l'éducation et celle d'autres ministres de l'éducation, donc contre la théorie de l'évolution en faveur du dessin intelligent, sont l'aboutissement du lobbying de structures organisées qui créent des musées, qui publient des ouvrages, qui organisent des conférences et qui interviennent dans les médias et utilisent pleinement la puissance de communication d'Internet. Et je vais en reparler juste après en revenant sur Arun Yahya. Les analyses qui présentent le créationnisme comme une spécificité américaine et de certaines églises évangéliques sont bel et bien dépassées. L'industrie créationniste américaine a certes alimenté l'émergence et le développement de ces mouvements en Europe dès les années 80, et des liens existent entre mouvements américains et européens, mais l'existence et le développement de mouvements créationnistes de diverses confessions dans de nombreux États prouvent leur capacité d'adaptation et leur autonomie. Les créationnistes européens, ils sont protéiformes. Ils ne sont pas organisés autour d'une confession particulière, ni au sein de partis politiques spécifiques. On constate des connexions réelles entre les mouvements créationnistes européens et les mouvements créationnistes américains, mais ce n'est pas pour autant que ces mouvements créationnistes européens ne se sont pas autonomisés et n'ont pas justement développé leur propre approche et leur propre thèse. C'est juste qu'ils s'auto-alimentent sur les choses sur lesquelles ils sont d'accord, et ils peuvent se poser sur leur point de désaccord en fonction des obédiences, etc. Alors, faute de temps, je ne peux pas développer toutes les offensives qu'on a constatées et que nous avons analysées, qui concernaient aussi bien l'Allemagne que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, l'Italie, la Russie, la Pologne, la Roumanie. Alors, vous avez vu, vous avez entendu la Russie et tout ça, donc je vous parle de l'Europe au sens du Conseil de l'Europe, hein, pas de l'Europe au sens de l'Union européenne. Donc, le Conseil de l'Europe, c'est 47 États membres, je ne dis pas de bêtises, et donc ça va jusqu'à la Russie, ça inclut également la Turquie. Je signale d'ailleurs qu'en octobre 2007, j'ai évoqué au tout début, 2007, ça correspond en fait à l'année de l'envoi de l'Atlas de la création en grand nombre en France. Alors en France, bien en France, parce qu'il a été envoyé dans plusieurs pays européens. Il a aussi été envoyé en 2008 aux États-Unis. Toujours est-il qu'en 2007, suite à cet envoi massif, la Commission de la culture, de la science et de l'éducation du Conseil de l'Europe s'est emparée de la question et a voté une résolution intitulée « Les dangers du créationnisme dans l'éducation ». Et dans ce rapport, l'institution, je cite, « invite les instances éducatives des États membres à promouvoir le savoir scientifique et l'enseignement de l'évolution et à s'opposer fermement à toutes les tentatives de présentation du créationnisme comme discipline scientifique ». Est-ce que ça va pour ceux qui sont au fond? Je parle suffisamment fort? D'accord. Alors, maintenant, je vous propose de partir en France et d'évoquer d'abord quelques structures qui promeuvent la véracité historique et scientifique du récit biblique de la Genèse. Alors, c'est le cas d'associations catholiques proches de tendances intégristes, comme la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, par exemple, j'en ai cité deux, il y a le Cercle d'études scientifiques et historiques ou encore le Centre d'études et prospectives sur la science, qui a la particularité d'être dirigé par Dominique Tasso, qui est de formation polytechnicien. D'autres sont d'obédience évangélique, comme l'association Au Commencement, créée et présidée par André Héguin, qui a la particularité jusqu'en 2009, chercheur en génétique appliqué à la sélection animale à l'Institut national de recherche agronomique, à l'INRA. C'était un directeur de recherche à l'INRA. Depuis 2009, il est parti travailler dans le privé, toujours sur la sélection animale. Toutes ces structures, que ce soit le CESHE, le CEP ou l'association Au Commencement, toutes ces structures militent pour un créationnisme scientifique dit scientifique Terre jeune, donc ils refusent l'ancienneté de la Terre. Leur influence reste limitée par l'extrémisme de leur position, je parle du moins pour la France, parce que ça rend l'adhésion plus difficile et ça réduit l'étendue de leur public et de leur réseau. Cependant, ces associations organisent des conférences, des colloques, des débats. Le Centre d'études exploitatives sur la science organise d'ailleurs ce mois-ci un colloque en région parisienne. J'ai reçu l'invitation il y a quelques semaines. Certaines d'entre elles, comme d'ailleurs l'association que je viens de citer, diffusent même leur position au-delà de la France parce qu'ils ont des réseaux. Ils ont su structurer des réseaux au niveau international et ils ont des connexions avec des structures américaines, mais également en Italie, en Russie. Et il fut un moment aussi où le Centre d'études prospectives sur la science avait des membres qui étaient également au Parlement européen. Et donc, il y a eu un certain nombre d'actions menées au niveau du Parlement européen par la diffusion de rapports, par exemple, 2007, où il y a eu le rapport du Conseil de l'Europe dont je viens de vous parler. Ils ont diffusé simultanément ou quelques semaines après un rapport qui faisait le contrepoint justement de ce rapport du Conseil de l'Europe et qui a été écrit par le parlementaire que j'évoquais et distribué aux parlementaires du Parlement européen. Voilà pour les structures les plus radicales, enfin pour une illustration, quelques exemples, hein, c'est pas exhaustif. Et maintenant, je vais parler un peu plus d'une autre structure qui s'appelle l'Université interdisciplinaire de Paris. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Oui, je vois quelques hochements de tête. Alors là, on est sur une structure qui ne s'inscrit pas du tout sur la même approche, puisque c'est parmi les formes de créationnistes les plus sophistiquées, sous prétexte, de promouvoir le dialogue entre science et religion, l'Université interdisciplinaire de Paris, qui est une association de loi 1901, interprète certains résultats scientifiques pour légitimer une vision spiritualiste du monde. Elle a été créée en 1995 par son secrétaire général, Jean Stone, avec le concours de son vice-président, l'astrophysicien Trix Xuan Tuan, qui est un astrophysicien relativement connu en France pour ses ouvrages de vulgarisation scientifique. Alors, il a la particularité d'être d'origine vietnamienne, d'enseigner et d'être professeur dans une université américaine, mais d'être francophile et d'écrire beaucoup d'ouvrages qui se vendent très très bien en France. Et s'il y a une librairie dans les environs, je suis à peu près sûr que vous trouverez un livre de Trix Xuan Tuan en rayon, même si le rayonnage science est extrêmement pauvre. Ce qui est le cas de beaucoup de librairies, mais il y aura du Trix Xuan Tuan, comme il y aura probablement du Jean Stone. Donc cette association accepte une évolution des espèces, mais elle est fondamentalement anti-darwinienne et anti-matérialiste. Et je vais revenir un peu après sur des exemples de positions qu'ils défendent. Enfin, même immédiatement. Voilà. Les positions de l'UIP, je vais parler de l'UIP désormais, s'inscrivent dans le cadre d'un créationnisme évolutionniste. J'aurais pu aussi parler d'évolutionnisme théiste, hein, c'est créationnisme évolutionniste ou évolutionnisme théiste, c'est deux expressions équivalentes. Vous les reverrez sur une diapo un peu plus tard. En ce qui concerne la biologie, donc l'UIP apparaît plus particulièrement en phase avec un télardisme que je qualifierais de modernisé. Alors quand je parle de télardisme, je fais référence à la doctrine spiritualiste conçue par le théologien jésuite et paléontologue Pierre Teilhard de Chardin, qui est vécu de 1880 à 1955, et qui a développé un évolutionnisme chrétien qui a tout d'abord été rejeté fermement par le Vatican, car il acceptait l'évolution, et à cette époque-là, le Vatican refusait l'idée d'évolution, avant que ses nombreux écrits constituent un vaste sujet d'étude pour l'Église catholique. Et là, il suffit de voir le nombre de livres autour de Teilhard de Chardin. Enfin, l'exemple, j'aime bien aller à la librairie La Procure à Paris, librairie catholique, qui est en effet un rayon extrêmement important juste autour de Teilhard de Chardin et de tous ceux qui font son exégèse. Teilhard de Chardin a toujours essayé de discerner un sens dans l'évolution et il a ainsi développé l'idée d'une évolution dirigée selon une logique interne. Cette logique interne, il l'appelait l'orthogénèse de fond, et vers un but ultime qu'il appelait le point oméga. Donc ça, c'est pour l'origine de l'homme, donc un télardisme modernisé. Et pour ce qui concerne, maintenant, je vais parler un tout petit peu de physique, ça va être le moment, justement, je vais évoquer des choses qu'on déconstruit au départ sur le fait que le créationnisme ne concerne pas que la biologie, mais concerne également la physique et la cosmologie, enfin d'autres disciplines scientifiques, et je vais prendre l'exemple de la physique. Du côté de la physique, c'est la mise en avant du principe anthropique fort qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs de l'association. Alors, l'argument, le principe anthropique fort, qu'est-ce que c'est ? Alors, le principe anthropique fort, il consiste à déclarer ou à dire que les paramètres qui définissent l'univers, par exemple la vitesse de la lumière, la charge de l'électron, enfin je pourrais en énumérer comme ça entre 10 et 20, ont été ajustés très finement en vue de l'émergence d'une vie intelligente. Je peux le dire autrement, l'ajustement des paramètres de l'univers est tellement précis, les chercheurs parlent de fine-tuning, ajustement fin, est tellement précis qu'il ne peut pas être le fruit du hasard. Si jamais on change, selon certains chercheurs, si on change le moindre paramètre, on n'arriverait pas à la planète sur laquelle on est aujourd'hui, nous ne serions pas là. Donc, leur interprétation et leur manière de retourner ce constat qui n'est pas d'interprétation spiritualiste, c'est de dire que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et donc, il y a une entité supérieure et transcendante qui est à l'origine de ce réglage. Et bien entendu, on est face à une proposition anthropocentrique et finaliste qui est indémontrable et qui ne relève pas de la démarche scientifique, bien que les personnes dont je parle l'affirment à longueur de médias. Trix Xuan Tuan, c'est l'argument qu'il défend depuis de très nombreuses années, depuis, je ne dis pas de bêtises, le premier livre qu'il a vraiment fait connaître, c'était en 1986, La Mélodie secrète. Et jusqu'à ces livres récents, ce sont des choses, l'argument du le principe anthropique fort est un argument qu'il met en avant. Et j'ai lu il y a quelques semaines, il est publié fin août dans le Figaro Magazine, une interview de Jean Stone qui vient de sortir un nouvel ouvrage et dans lequel, dans l'interview, il met en avant encore le principe anthropique fort, en faisant appel à Trix Xuan Tuan, et il continue de développer cette approche. Alors je profite justement de cette évocation du principe anthropique fort pour évoquer deux personnalités médiatiques qui diffusent la même position, qui à ma connaissance n'ont pas de lien direct avec l'université interdisciplinaire de Paris, mais je vais en parler pour la convergence de positions défendues. Ce sont deux jumeaux. Voilà. Donc ce sont les frères Bogdanov, donc en ce moment quelques affaires sur le dos, mais qui continuent d'être invités dans les médias pour parler, enfin, c'est toujours le truc qui surprend, c'est qu'en dépit des affaires qu'il peut y avoir, il continue à être invité. Il publie des ouvrages à succès qui sont vendus comme des ouvrages de vulgarisation scientifique, par exemple La pensée de Dieu, Le visage de Dieu, La fin du hasard. Je sais pas, en 2015 aussi, il y avait Le code secret de l'univers, mais je pourrais en citer bien d'autres. Ils avaient commencé en 91 avec un livre avec Guiton, le philosophe catholique Guiton, qui était Dieu et la science, où j'ai plus le titre en tête, mais vous voyez peut-être de quoi je parle. Alors, ces deux personnalités des médias véhiculent les mêmes thèses pseudo-scientifiques et spiritualistes sous un vernis scientifique dans leurs livres et dans les très nombreux médias qui les invitent. Et je vais citer un exemple de ce qu'ils racontent avec Krishka Bogdanov, qui était interviewé avec son frère dans un journal suisse. Alors pourquoi je suis allé prendre l'exemple en Suisse ? C'est parce que le constat qu'on peut faire aussi avec les personnes qui défendent des positions créationnistes, c'est qu'en général, ils sont beaucoup plus explicites quand ils s'expriment à l'étranger que quand ils s'expriment en France. Et là, assurément, la laïcité à la française a une responsabilité dans cette différence de manière de s'exprimer et de dire les choses. Donc, la citation, « Nous pensons que l'on peut aller vers Dieu à travers l'astrophysique théorique et la cosmologie. Oui, on peut trouver Dieu grâce à la science. C'est ce que nous développons dans ce livre. Une cause que nous acceptons d'appeler Dieu a réglé les 20 premiers paramètres cosmologiques qui sont à l'origine de la création de l'univers. Tout à fait sens à partir de ce moment précis. Igor et moi voulons apporter un message d'espoir à tous ceux qui cherchent. » Donc je le répète, de mon point de vue, et je pense que partagé en partie ici, on pourra en discuter après, il est problématique que les Bogdanov soient valorisés dans les médias comme des scientifiques et qu'ils puissent présenter leur thèse spiritualiste comme issue de la démarche scientifique. Et le même problème se pose pour Trix Xuan Tuan, qui dans ses ouvrages est capable de vulgariser, on va dire, de la bonne science, il le fait, parce que ses ouvrages, mais qui à un moment, dans ses écrits, de toute façon, va basculer vers des positions spiritualistes qui relèvent de
sa propre démarche individuelle, sans dire clairement qu'il bascule sur une approche qui n'est plus une approche scientifique, mais une approche beaucoup plus personnelle. Et c'est là-dessus que se pose le problème. De la même manière, quand il intervient dans les médias, le glissement se fait de manière imperceptible, et si on n'a pas l'esprit critique et la connaissance l'éveil sur ce type de position, on va avoir l'impression que c'est la science qui tient ce type de position. Et c'est c'est un des problèmes essentiels. Donc pour en revenir à l'université interdisciplinaire de Paris, je dirais que la diffusion des positions néo-télardiennes et du principe anthropique fort illustre parfaitement la volonté finaliste et anthropocentrique de cette association, que ce soit pour tenter d'expliquer l'origine de l'univers, de la vie ou de l'homme. Il travaille aussi sur les origines de la conscience. Et depuis sa création, l'association organise des conférences ainsi que des colloques, autant que possible au sein d'institutions aussi prestigieuses que la Sorbonne, l'UNESCO ou bien le Sénat. Et à chaque fois, c'est le même schéma. On a le choix orienté des intervenants et de la mise en avant de scientifiques aux étiquettes prestigieuses qui donnent l'illusion aux auditeurs que la science est désormais spiritualiste ou que le rapprochement entre science et religion est logique et nécessaire. Et cette association, dans son activité, est largement aidée par, appuyée en fait financièrement et logistiquement par une fondation américaine qui s'appelle la fondation John Templeton. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors à propos de cette fondation d'ailleurs, et du spiritualisme englobant, là je reviens sur la notion que j'ai évoquée tout à l'heure, portée par cette fondation et par l'Université interdisciplinaire de Paris, l'occasion d'écrire un article qui est dans un des numéros de Science et Pseudoscience, puisque je vois qu'il y a un certain nombre de numéros qui sont là, donc je pense que le numéro est là, donc qui présente ce sujet-là. Toujours est-il que la Fondation Templeton, peut se permettre de délivrer annuellement jusqu'à 50 millions d'euros de bourses et de prix divers, notamment pour le progrès de la religion. Et donc avec l'appui de cette puissante et riche fondation, l'Université interdisciplinaire de Paris a su constituer un solide réseau qui l'amène à s'impliquer dans divers programmes internationaux mélangeant science et religion. Vous avez quelques exemples là, je ne vais pas entrer en détail pour passer sur la suite, mais ce sont des programmes qui concernent aussi bien l'Asie que l'Europe de l'Est ou le Moyen-Orient. En définitive, sous couvert de dialogue, la Fondation Templeton comme l'Université interdisciplinaire de Paris détourne la démarche scientifique pour que la science réponde à des questions qui sont hors de son champ de compétences. C'est, je pense, un point important à retenir. Et ce, en faisant appel à des chercheurs, souvent reconnus dans leur domaine de compétences, parce que ce n'est pas une association, c'est une association qui s'appuie sur un certain nombre de chercheurs, y compris un certain nombre de prix Nobel, mais qui s'expriment le plus souvent en dehors de leur champ de compétences et qui veulent compléter les limites de la connaissance scientifique par la religion. Donc il y a souvent un amalgame entre des véritables connaissances scientifiques et leur approche personnelle de leur foi ou de la spiritualité. D'accord. La caution scientifique ainsi que la notoriété et le prestige des intervenants contribuent à rendre légitime un discours où se retrouvent pêle-mêle des croyances individuelles et des connaissances scientifiques. Donc on est bien face à un créationnisme évolutionniste ou un évolutionnisme théiste très sophistiqué de type spiritualisme englobant qui promeut la religion en mettant en avant la complémentarité entre science et religion. Alors, avant de conclure, je vais revenir quelques minutes sur les offensives portées par Arun Yahya contre la théorie darwinienne de l'évolution. Voici la couverture du livre donc, que j'ai apporté ici, pour ceux qui voudraient le feuilleter, qui a donc été diffusé en grand nombre à l'automne 2017. Comme j'ai dit, son auteur Arun Yahya s'est fait connaître en France par l'envoi de la place de la création en 2007. Il s'est fait connaître aussi par l'organisation de conférences et de colloques, en particulier en 2011-2012, dans un peu partout en France. Et il y en a eu une bonne trentaine de conférences organisées, dans des lieux parfois assez bas, dans des théâtres, etc., dans les écoles de confession. Enfin, il y a eu, et c'était des personnes qui sont des partisans d'Arun Yahya qui intervenaient, parce qu'à cette époque-là, Arun Yahya n'avait pas le droit de quitter la Turquie. Il était interdit de quitter le territoire turc. Donc voilà ce que dont je parlais tout à l'heure. Bon, c'est juste pour que vous voyez des exemples des pages qu'on peut retrouver dans ces ouvrages. Alors ce sont des pages qui sont tirées d'Atlas de la création, sachant que ces ouvrages sont intégralement disponibles en téléchargement gratuit sur les différents sites internet qu'ils proposent. Donc vous avez ces comparaisons de fossiles. Et vous avez également des propos qui rendent le théorie darwinienne de l'évolution, et ils parlent de darwinisme, responsable du nazisme, du fascisme, du terrorisme. Pour expliciter les choses, une citation, « La théorie darwinienne de l'évolution n'est pas une théorie scientifique, mais un dogme idéologique et philosophique. Ce dogme a servi de base soi-disant scientifique à des idéologies sanguinaires, des guerres atroces, des gouvernements coloniaux et des actes de barbarie raciste. » Alors, ce ne sont pas des propos qui sont spécifiques à ce créationnisme d'origine musulmane. On les retrouve aussi de l'autre côté de l'Atlantique avec les créationnistes américains et du côté aussi des structures françaises intégristes dont on a parlé. Là, vous avez une illustration avec une conférence qui était organisée à Paris à Saint-Nicolas du Chardonnay, donc le fief parisien de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Et qui était évolutionnisme poison universel, et je vous laisse admirer Darwin qui est associé avec un certain nombre de personnes illustres historiquement. Et vous avez au milieu de tout ça, si vous ne le connaissez pas, un chanteur aussi qui se greffe, c'est Marilyn Manson en musique gothique, dark metal, qui est au milieu de Mao, Hitler et compagnie. Donc le darwinisme est responsable des attentats sur les tours jumelles à New York. Ça, c'est aussi une illustration tirée de la place de la création. Donc Haroun Iyad, son vrai nom, Anan Uther, a fondé une organisation islamique en 90 qui est considérée comme sectaire et dont les principaux objectifs sont de faire disparaître la théorie de l'évolution de l'enseignement et de promouvoir sa vision du courant en Turquie et dans le reste du monde. Donc il produit un grand nombre de choses, que ce soit des vidéos, des ouvrages, des choses qui sont disponibles sur des dizaines de sites internet, qui sont traduits dans un très grand nombre de langues, y compris en français, parce que l'objectif, il est vraiment international. Dernièrement, ils ont développé de nombreuses applications. Et pour finir sur donc cette organisation et ce qu'elle porte, c'est qu'il faut retenir que la propagande qui est réalisée en Turquie et dans le reste du monde, dans un contexte politique turc favorable, souligne la puissance financière dont disposent ces mouvements qui ont intégré les moyens de communication les plus modernes et les plus efficaces pour toucher le plus de personnes possible. Avant de conclure, je précise juste un point sur Haroun Iyad. Peut-être que certains l'ont vu passer, il y a quelques médias qui se sont fait l'écho. Depuis, en juillet 2018, il a été arrêté. En même temps qu'un certain nombre de ses partisans. Alors, il est accusé cette fois, hein, je ne dis pas cette fois parce que ce n'est pas la première, soupçonné de fraude, corruption et agression sexuelle. Alors on va voir la suite, hein. C'est vraiment une affaire à suivre parce qu'il y a déjà eu le même type de situation, il a déjà été arrêté en 99 avec une cinquantaine de partisans, et là à l'époque c'était pour menaces et chantage en vue d'enrichissement personnel et création d'une organisation illégale. Il y a eu plusieurs procès et après 10 ans de procédure, de toute façon toutes les charges ont été abandonnées en 2010. Donc on va voir ce qu'il en est là, mais effectivement, là où il a été soutenu pendant longtemps par l'AKP, il est beaucoup moins depuis le début de l'année, ce qui a conduit à cette situation et à son arrestation. Voilà, donc je conclue avec... là, c'était pour resituer comme ça ce que j'ai évoqué tout au long de cette intervention. Peut-être que ça va vous permettre de refaire le revisualiser. J'ai entouré les structures que j'ai citées, donc vous avez le créationnisme littéraliste tout en haut, celui pour lequel c'est plus difficile d'identifier une structure. Le créationnisme scientifique, donc avec de type Terre jeune, avec des structures françaises que j'ai citées, et également de type Terre ancienne avec Haroun Iyad et son organisation. Le dessin intelligent avec le Discovery Institute, donc dessin intelligent qui se situe c'est une forme d'évolutionnisme théiste. Et vous avez les approches de type spiritualisme englobant, incluant par exemple le télardisme ou le néo-télardisme dans lequel on retrouve l'université interdisciplinaire de Paris ou la fondation Templeton. Donc là on a la diversité des créationnismes et comme vous le voyez les catégories que nous proposons ne sont pas étanches et hermétiques. Vous voyez qu'il y a un continuum parce que ben, je pense compris on peut retrouver des positions plutôt de type dessin intelligent portées par des créationnismes dits scientifiques. Voilà, donc enfin Pour conclure, tous les créationnistes ont en commun d'instrumentaliser la science et de promouvoir une vision du monde où la religion constitue la source de valeurs morales qui devraient régir la société. Le créationnisme se révèle donc être un marqueur de nombreuses questions, parmi lesquelles, je peux citer la laïcité et ses remises en cause, l'enseignement et la formation des enseignants, la culture scientifique et sa diffusion dans la société, le rôle des médias dans la diffusion des thèses créationnistes et également dans la diffusion des pseudosciences, puisque c'est fait partie des thèmes qui sont largement portés par le GEMAPI. Et dans notre enquête, on a essayé de prendre en compte l'ensemble de ces problématiques pour appréhender la dynamique actuelle des mouvements créationnistes de part et d'autre de l'Atlantique. Et je vous remercie de votre attention.